4 octobre, deuxième livre des Chroniques, chapitre 9, versets 13 à 31.
Et le poids de l'or qui arrivait à Salomon dans une année était de 666 talents d'or, outre ce qu'apportaient les commerçants ambulants et les trafiquants, et ce qu'apportaient à Salomon tous les rois de l'Arabie et les gouverneurs du pays en fait d'or et d'argent. Et le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, mettant à chaque bouclier 600 sicles d'or battu, 300 petits boucliers d'or battu, mettant à chaque bouclier 300 sicles d'or, et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Et le roi fit un grand trône d'ivoire et le recouvrit d'or pur. Et le trône avait 6 degrés et un marchepied d'or attenant au trône, et des bras d'un côté et de l'autre à l'endroit du siège, et 2 lions qui se tenaient à côté des bras, et 12 lions qui se tenaient là sur les 6 degrés d'un côté et de l'autre. Il ne s'en était point fait pareil dans aucun royaume. Et tous les vases à boire du roi Salomon étaient d'or, et tous les vases de la maison de la forêt du Liban d'or pur. L'argent, au jour de Salomon, n'était compté pour rien. Car les navires du roi allaient à Tarsis avec les serviteurs de Hiram. Une fois tous les 3 ans, les navires de Tarsis venaient, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Et le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Et tous les rois de la terre recherchait la face de Salomon pour entendre sa sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et ils apportaient chacun son présent, des vases d'argent et des vases d'or, et des vêtements, des armes et des aromates, des chevaux et des mulets, chaque année le tribut de l'année. Et Salomon avait 4000 stalles pour des chevaux et des chars et 12000 cavaliers, et il les plaça dans les villes à chars et auprès du roi à Jérusalem. Il dominait sur tous les rois, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Et le roi fit que l'argent dans Jérusalem était comme les pierres, et il fit que les cèdres étaient en quantité comme les sycomores qui sont dans le pays plat. Et l'on exportait d'Égypte et de tous les pays des chevaux pour Salomon. Et le reste des actes de Salomon, les premiers et les derniers, ne sont-ils pas écrits dans les paroles de Nathan le prophète et dans la prophétie d'Akija le Silonite, et dans la vision de Gédo le voyant, touchant Jéroboam, fils de Nébat? Et Salomon régna à Jérusalem sur tout Israël 40 ans. Et Salomon s'endormit avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David son père, et Roboam son fils régna à sa place.
Gloire, richesse, sagesse, puissance, le règne du fils de David s'achève sur une vision magnifique. Non seulement la reine de Sheba, mais tous les rois de la terre viennent entendre la sagesse du grand Salomon, lui apporter leurs présents et avant tout rechercher sa face. À combien plus forte raison en sera-t-il ainsi du Seigneur Jésus lors de son avènement? En Ésaïe 49, verset 7, on lit « Des rois verront et se lèveront, des princes, et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui te choisira. » Il est aussi écrit en Ésaïe 33, verset 17, « Tes yeux verront le roi dans sa beauté. » L'accomplissement de cette promesse sera pour Israël et pour les nations la suprême bénédiction. Mais ces bienheureux rachetés seront les premiers à le contempler. Oui, voir le Seigneur. Cette pensée remplit-elle notre cœur de joie ou de crainte? Ou encore nous laisse-t-elle indifférents? L'histoire de Salomon est terminée. Mais où sont donc les graves péchés mis en évidence par le premier livre des rois? Est-il possible vraiment que notre livre n'en fasse pas la moindre mention? En vérité, la merveilleuse grâce de Dieu les a tous effacés, afin de nous montrer à travers ce roi un plus grand que Salomon.